France Inter. .fr.
Le journal Yves Decamps. Yves, bonjour.
Bonjour. La nouvelle volte-face de Donald Trump, après avoir jugé que le racisme c'était le mal, le président américain renvoie de nouveau dos à dos les suprémacistes blancs et les antifascistes aux grandes dames de ses propres soutiens. Invité de ce journal, un spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Ça devait arriver en Méditerranée, les gardes-côtes libyens qui ont pris en charge la récupération des migrants ont bloqué le bateau d'une ONG espagnole qui dénonce une séquestration. Dans ce journal également, les personnels du très réputé hôpital de Garches qui s'opposent au déménagement de leur établissement à Boulogne-Billancourt. Le Tour d'Espagne qui prend son départ samedi à Nîmes, c'est une première. Le 40e anniversaire de la mort du King Elvis, des dizaines de milliers de fans sont attendus à Memphis. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Yves.
Une journée de transition comme prévu.
Oui, après la journée agitée d'hier et avant l'arrivée d'une perturbation pour demain, c'est un temps calme qui s'annonce pour aujourd'hui. Et des côtes normandes aux frontières du nord et du nord-est jusqu'en Auvergne, on profitera d'éclaircies cet après-midi, plus large au nord de la Seine. Sur le relief, il faut s'attendre à des averses et même à des orages sur le massif central et le nord des Alpes. Le temps sera plus nébuleux, du sud du Limousin aux Pyrénées, mais du Languedoc-Roussillon aux Alpes du Sud et à la Corse et dans l'embouchure de la Gironde au Poitou jusqu'à l'est de la Bretagne. Le soleil va briller généreusement cet après-midi. En revanche, sur le Finistère, les nuages vont devenir de plus en plus nombreux au fil des heures. Ce sont les prémices de la perturbation atlantique qui apportera déjà quelques gouttes en fin de journée.
Les températures restent stationnaires et de saison.
Oui, prévoyez seulement 20 degrés à Brest, mais 24 degrés pour Caen et Biarritz, 26 degrés à Paris et à Reims et 27 degrés à Bourges, Cognac, Toulouse ou encore Strasbourg. Il fera plus chaud sur le quart sud-est avec 30 degrés pour Lyon, Montpellier et Cannes et 32 degrés pour Marseille et Bastia et on ira jusqu'à 35 degrés à Figari et Auluc.
France Inter.
Où l'on parle déjà de la rentrée scolaire. Pour commencer, c'est pas pour gâcher la journée de ceux qui sont en vacances, mais la Confédération syndicale des familles a fait ses comptes. Le coût de la rentrée scolaire cette année sera un peu plus élevé qu'en 2016 au lycée, mais moins élevé en primaire et au collège. 200 familles ont été interrogées sur le budget qu'elles y consacreront. De 150 euros pour le plus jeune de la famille jusqu'à 400 euros pour une entrée en seconde, Boris Taillet.
90% des familles interrogées font l'inventaire de leurs fournitures afin de réaliser des économies, dont certaines sont essentielles pour Catherine Cona, membre du secteur éducation de la CSF, la Confédération syndicale des familles.
On peut très bien servir un cartable deux années de suite et on évite donc l'achat du cartable qui est quand même un poste très très lourd. Après, on peut servir des classeurs. Les classeurs, s'il y a eu juste des feuilles dedans et des intercalaires, rien n'empêche de vider les classeurs et de réutiliser les classeurs.
Le coût de la rentrée varie de 150 euros pour une rentrée en CP à plus de 420 euros pour le lycée et même 700 euros pour une seconde en professionnel. Selon la CSF, cette variation des coûts n'est pas prise en compte par l'allocation de rentrée scolaire.
L'ARS est complètement déconnectée des réalités des coûts. Par rapport à un enfant qui va rentrer en élémentaire et un jeune qui va rentrer en lycée, l'écart est de 33 euros. Nous, on demande vraiment une modulation de l'ARS qui prenne en compte vraiment les dépenses réelles liées au coût de la scolarité au niveau des niveaux.
La Confédération souhaiterait par ailleurs faire diminuer le taux de TVA sur les fournitures scolaires de 20 à 5,5, une baisse qui permettrait aux familles de réaliser 10 euros d'économie pour une entrée en CP et près de 25 euros pour le lycée.
Et l'allocation de rentrée scolaire dont bénéficient plus de 2,5 millions de familles sera versée à partir de demain. Une rentrée scolaire décalée de 5 jours dans la plupart des communes de l'île de la Réunion où les maires se disent confrontés à la baisse du nombre des contrats aidés. Ils demandent donc un délai pour boucler les recrutements nécessaires. À propos de rentrée également, ce sera plus tard, bien sûr, pour la plupart des étudiants. Fort heureusement d'ailleurs pour 3 à 5 000 bacheliers qui ne connaissent toujours pas leur affectation. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, assure que tout sera réglé à temps, que le processus d'admission reste en place. En attendant, face à ce système APB, admission post-bac, qui a fait la preuve de son mauvais fonctionnement, beaucoup de jeunes vont chercher ailleurs et beaucoup d'écoles en profitent pour leur faire un peu de place. Comme ici, sur le Brest Open Campus, 3 écoles de communication, d'informatique et de management. C'est un reportage d'Hervé Cressard.
Des bacheliers ou leurs parents anxieux, stressés à 2 mois de la rentrée, désemparés. Souvent, ce sont de véritables appels au secours qu'a reçu le campus, avec souvent des profils intéressants, explique Alexis Drieux-Falgon, le directeur.
On a des profils de grande qualité pour certains, puisque les dernières sessions se sont faites effectivement dans bon nombre de cas par tirage au sort, c'est-à-dire que le mérite, la qualité du dossier de l'étudiant, du dossier scolaire, etc., n'est pas pris en compte.
Pas question de pousser les murs pour autant, pas question de créer des places artificiellement, mais tout de même un effort pour les post-bac.
Concrètement, on a ouvert effectivement 5 places supplémentaires sur l'IFAG, l'école de management, 5 places supplémentaires sur Subdecom, l'école de communication, et 3 places sur l'école d'informatique.
Le Brest Open Campus a créé un concours supplémentaire, ça sera le 26 août, une quarantaine de candidats environ, pas plus.
On ne va pas ouvrir une capacité de concours à 200 candidats pour au final 13 places ouvertes en termes d'inscription, parce que ce serait de nouveau déceptif. Rajouter une couche effectivement sur l'anxiété pour les étudiants.
Conséquence, le campus brestois ne fermera pas cet été, il y aura toujours une permanence. À défaut de proposer un avenir, les responsables seront à l'écoute de toute une jeunesse désemparée, au moins pour la conseiller.
Chasser le naturel aux États-Unis, bien malin qui comprend ce que veut ou ce que veut dire le président Trump, tant il multiplie les volte-face. Dernière en date, la nuit dernière, à l'occasion d'une conférence de presse dans la Trump Tower, le président américain a de nouveau semé le doute sur le fond de sa pensée s'agissant des suprémacistes blancs dont il avait dit la veille le plus grand mal. Après la mort d'une manifestante à Charlottesville, en Virginie, le racisme, lundi, c'était le mal. Mais mardi, le même Donald Trump renvoie dos à dos les extrémistes de droite et les manifestants de gauche, de façon d'ailleurs plutôt embrouillée.
Wait a minute, I'm not finished. I'm not finished, fake news.
Attendez, je n'ai pas fini, je n'ai pas terminé. Vous êtes de la fake news. Ces personnes n'étaient pas toutes des néo-nazis, croyez-moi. Toutes ces personnes n'étaient pas, loin de là, des suprémacistes blancs. Vous aviez un groupe d'un côté qui était agressif et vous aviez un groupe de l'autre côté qui était aussi très violent. Personne ne veut le dire, mais moi je le dis. Il y avait un groupe en face qui est venu attaquer l'autre groupe. Ils étaient très, très violents.
Voilà, des propos aussitôt salués par un ancien chef du Ku Klux Klan, mais qui ont à l'inverse suscité à nouveau l'indignation des milieux politiques, sportifs, artistiques, y compris d'ailleurs parmi les soutiens de Donald Trump, le Parti Républicain et même le patronat. En ligne avec nous dans ce journal, Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris 2 Assas, chroniqueur au Huffington Post, spécialiste des États-Unis, bonjour.
Bonjour.
Alors que cherche Donald Trump en préservant, comme il le fait, l'extrême droite américaine ? Qu'a-t-il à y gagner ?
Alors en réalité, Donald Trump est redevenu Donald Trump, c'est-à-dire qu'il parle à ses troupes, il parle à ceux qui l'ont élu et uniquement à eux. Ce qui s'est passé cette nuit, c'était en réalité une conversation avec les journalistes, et vous savez qu'il ne s'entend pas bien avec les journalistes, avec qui il s'est même déclaré en guerre depuis son élection. Donc cette nuit, on avait à nouveau cette séquence des fake news sans jamais le dire, mais c'était ça. Il expliquait aux journalistes qu'il n'avait pas été voir les images, et donc qu'il n'avait pas vérifié que les opposants est également aussi violent. Il y a aux États-Unis, ce qu'on ne dira jamais assez, un autre groupe de l'autre côté qui sont les antifascistes, les antifas, qui effectivement sont un groupe très violent. En revanche, ce que Donald Trump n'a pas dit, n'a pas vu ou n'a pas su voir, c'est que ces groupes antifas et les groupes extrémistes de l'autre côté, qui sont donc extrême droite, une droite radicale et violente, ne sont pas à mettre sur le même plan, puisque d'un côté, il y a de l'idéologie et pas de l'autre. Et c'est bien ça qui embarrasse la classe politique américaine et en particulier le Parti Républicain, c'est qu'ils attendent une condamnation ferme des groupes néo-nazis et du Ku Klux Klan aux États-Unis, avec un point à la fin, sans que l'on mette un mais qui ouvre à nouveau le débat et qui ferait croire que ces gens-là pourraient être effectivement inclus dans le débat politique.
Alors vous nous dites qu'il est redevenu lui-même, alors qu'hier, quand il avait dit « le racisme, c'est le mal », en quelque sorte, il obéissait simplement à ses conseillers en communication.
Ah non, je ne crois pas. Je crois que réellement, il pense que le racisme, c'est le mal. Et il le condamne, comme le condamne 95%, 98% de la population américaine. Il est dans une séquence le bien opposé au mal, comme le font les Américains depuis qu'ils sont Américains. Car s'il y a eu effectivement 1607, l'arrivée des colons pour du mercantilisme, pour faire fortune, il y a surtout eu 1620, l'arrivée des colons pour fuir la persécution. Et depuis cette époque, la religion est partie prenante de la politique américaine. Donc pour les Américains, cela va de soi qu'il y a un combat du bien contre le mal. Le mal, c'est effectivement le racisme, ça en fait partie, et il le condamne, je crois, sans aucune réserve. Il ne se rend pas compte, parce que ce n'est pas un homme politique, qu'il y a une portée forte de la part de ces groupes qui mettent une idéologie nauséabonde que lui, visiblement, ne perçoit pas.
Alors cela étant, peut-il tenir 4 ans en perdant peu à peu tous ses soutiens, notamment dans le Parti Républicain et dans les milieux patronaux ?
Ah, s'il perd ses soutiens, effectivement, seulement je ne crois pas qu'il perde ses soutiens, car là aussi, la séquence que l'on ne voit pas trop de la part des Américains vus de France, c'est que les Américains sont sclérosés aujourd'hui dans une logique pro ou anti-Trump. Depuis le 9 novembre, chacun s'est mis dans son rôle et l'antagonisme est tellement fort qu'aujourd'hui, il est difficile de passer d'un camp vers un autre sans perdre même son espace social, on pourrait le dire comme ça. Donc sa cote ne bouge quasiment pas et ses supporters restent très forts. Et en plus, ils sont très satisfaits, il faut le dire, au sein du Parti républicain et de la droite conservatrice, de ce que fait Donald Trump, parce que sur le plan économique, ça va plutôt bien, avec un chômage qui a baissé, de l'emploi qui se crée, une inflation qui baisse et un dynamisme sur le plan économique qui est répété à l'envi quand on attaque Donald Trump. Donc de ce côté-là, il trouve qu'il remplit plutôt bien son contrat.
Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris 2, Assas, merci beaucoup. Que s'est-il passé précisément au large des côtes libyennes? L'ONG espagnole Open Arms affirme que son bateau, le Golfo Azzurro, aurait été bloqué près de 2 heures par les gardes-côtes libyens dans une zone dite économique, qui ne fait pas vraiment partie des eaux internationales, mais qui illustre les nouvelles règles non écrites du sauvetage en mer dans ce coin de Méditerranée, où les Libyens revendiquent désormais la direction des opérations, Mathilde.
Et pour comprendre, Yves, il faut remonter aux dernières déclarations de la marine libyenne la semaine dernière. Elle détermine une nouvelle zone de recherche à l'intérieur de laquelle la Libye se dit souveraine, même si on se situe au-delà des 12 000 de ses eaux territoriales. Une nouvelle zone de 190 000, soit environ 350 km. La Libye a décidé hier de passer donc à la vitesse supérieure. Des gardes-côtes ont arraisonné le Golfo Azzurro de l'ONG espagnole Open Arms. Un photographe de l'agence Reuters présent à bord rapporte une conversation tendue, les Libyens menaçant de tirer si le navire de secours ne se détourne pas vers Tripoli. Il a finalement mis cap au nord, sous les yeux du bateau des identitaires européens anti-migrants qui en ont profité pour faire un communiqué parlant d'une entente entre eux et les gardes-côtes libyens. Ce matin, le Golfo Azzurro, comme un autre bateau, le Phénix, sont toujours sur zone. Mais ils ont reculé, comme le fait désormais aussi l'Aquarius, dans les 24 000. Une distance de sécurité suffisante, estiment les ONG, respectant la souveraineté libyenne. Et on peut s'interroger sur les réelles intentions des Libyens de porter assistance en mer. Quand on voit la fragilité des bateaux des passeurs, il y a peu de chances que les migrants parcourent 350 km sans couler. D'autant que les passeurs récupèrent souvent le moteur pour le réutiliser, d'autant aussi que certains gardes-côtes échappent à leur autorité et profitent eux aussi à leur échelle de ce vaste trafic de migrants.
Le journal de 13h sur France Inter.
Contre le déménagement de leur hôpital, les syndicats de l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine sont entrés en résistance contre le projet qui vient d'être annoncé courant juillet, un projet de transfert de l'établissement tout entier de Garches à Boulogne-Billancourt sur le site de l'hôpital existant Ambroise-Paré. Pour les équipes notamment spécialisées dans la prise en compte du handicap, cette décision de la PHP met en péril la réputation dont jouit aujourd'hui leur hôpital. Delphine Evenoux.
Direction et syndicats ont un même diagnostic, l'hôpital Raymond Poincaré est trop vétuste, mais l'ordonnance, elle, est complètement différente. L'hypothèse de départ était de reconstruire Garches sur Garches, comme le voulaient les syndicats. Or, il y a quelques semaines, une étude de faisabilité a fait changer d'avis la PHP. Catherine Sueur, la directrice générale adjointe.
Sur le site de Raymond Poincaré à Garches, tous les services et spécialités et tout plateau technique n'est pas disponible, donc il y a déjà des allers-retours. Donc ça permettra d'améliorer la prise en charge des patients. Et enfin, pour les équipes médicales, ça permettra quand même d'avoir une communauté médicale et soignante plus importante. C'est vraiment du plus que nous cherchons à faire.
Mais qui dit synergie dit économie, réplique l'intersyndicale qui craint une chose.
Perte de lit, perte de personnel.
Christian Dubois est délégué CGT et infirmier depuis 37 ans à Raymond Poincaré. Il a une hantise que l'hôpital ne perde sa spécificité, une réputation dans la prise en charge du handicap bâtie depuis plusieurs décennies.
Il y avait des choses qui avaient été créées par les médecins et les paramédicaux, des choses spécifiques pour la prise en charge des handicapés. Il y a un centre pour essayer les fauteuils, il y a des centres de recherche, etc. Au départ, Poincaré, c'était un hôpital familial. Vraiment, il y avait des choses qu'on apprenait au fur et à mesure et on a bien peur que tout ça, ça se perde.
Tout le projet est à construire et cela se fera en concertation avec les salariés et les associations de patients, rassure la direction. Les négociations débutent en septembre.
Une pétition en ligne contre le déménagement a déjà recueilli plus de 5500 signatures. Aucune altération du discernement pour le meurtrier de la pizzeria lundi soir à Sept-Sorts en Seine-et-Marne. Il avait foncé sur le restaurant, tuant une jeune fille de 13 ans, blessant 13 personnes. L'examen psychiatrique du chauffard, testé positif aux stupéfiants, n'a rien relevé qui permette de dégager sa responsabilité pénale. David Patterson, qui dit avoir voulu se suicider, sera donc présenté à un juge d'instruction cet après-midi pour être mis en examen pour meurtre aggravé. Le scandale des œufs contaminés au fipronil, en attendant le détail des produits concernés promis par le ministère de l'Agriculture, la Fédération du commerce et de la distribution indique avoir agi selon le principe de précaution et retiré des rayons les marchandises sur lesquelles il pouvait y avoir un doute, en rappelant que l'Agence nationale de sécurité alimentaire n'a pas relevé de risque pour les consommateurs, lesquels, par la voix de l'UFC Que choisir, regrettent qu'il faille autant de temps pour faire passer une information précise. En sport, un Tour d'Espagne qui commence à Nîmes, et pourquoi pas ? Après tout, le Tour de France est bien parti d'Allemagne, mais pour la Vuelta, c'est la première fois, la 72e Vuelta, qui prendra le départ samedi de la préfecture du Gard, où les équipes commencent à arriver, et ça fait du monde évidemment dans les hôtels du coin, notamment cet hôtel 4 étoiles où les Sky de Christopher Froome ont élu domicile. Tout le personnel est déjà sur le pied de guerre. Jade Péchira.
Tout doit être parfait pour leur arrivée.
Bien entendu, toutes les pâtes doivent être cuites al dente.
Carole Martin-Bouscard le coordonne toutes les demandes de l'équipe, notamment ce qui concerne un point crucial, les menus des coureurs.
Pour le mercredi midi, vous avez du dos de cabillaud, ce sera de la cuisse de dinde le mercredi soir, etc. Il faut bien respecter ces indications, au gramme près.
Et c'est plus important que ça en a l'air.
La performance des athlètes, bien entendu, va en dépendre aussi. Voilà. C'est pas quelque chose qui se gère à la légère.
Pas facile d'accueillir l'une des meilleures équipes cyclistes du monde, Renaud Dumora, est le responsable de l'hébergement à l'hôtel.
Tout est minuté, tout est orienté pour que, en fait, ils se posent aucune question et que leur travail, ça soit de faire du vélo, de gagner des courses et de travailler pour l'équipe.
Et rendre la vie de Christopher Froome plus facile, ça ne s'improvise pas comme ça.
Donc on a des réunions où on travaille sur ça, on définit des équipes, des horaires, s'il y a des choses à monter ou à démonter, ou à ranger ou à nettoyer, ce genre de choses, on crée des équipes pour ça.
Entre la cuisine, l'accueil, le ménage et le reste, une vingtaine de personnes seront mobilisées pour accueillir l'équipe Sky pendant leur séjour à l'hôtel.
Les gars, 21 cuillères ici et une cuillère là.
Et le départ, c'est donc samedi. Kasparov n'est plus ce qu'il était, l'ancien grand maître des échecs qui vient de faire son retour à la compétition. Après 15 ans de retraite, s'est fait battre à sa 5e partie du tournoi de Saint-Louis dans le Missouri. Après 4 matchs nuls, il a été mis échec et mat par un jeune compatriote russe de 27 ans, son cadet. Il fallait bien que ça arrive, ont simplement commenté les fans, évidemment très déçus, mais la compétition n'est pas terminée. Allez, c'est l'un des événements de l'année, paraît-il, aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes vont célébrer ce mercredi à Memphis le 40e anniversaire de la mort d'Elvis, le king du rock'n'roll, décédé le 16 août 77 dans sa maison de Graceland. Ses fans lui rendent hommage sur son lieu de vie, bien sûr, mais aussi à Beale Street, la rue où le jeune Presley avait commencé à chanter alors qu'il était encore adolescent. Beale Street, the street of music à Memphis, Philippe Randet.
En marchant au milieu de Beale Street, impossible de savoir d'où vient la musique. Des dizaines de groupes jouent en même temps, pour le plus grand plaisir d'Alex, un sosie d'Elvis venu du Brésil.
Elvis a été très influencé par ce son de Memphis. Le blues, le rhythm and blues, le gospel. Il aimait venir dans cette rue. Moi, j'écoute Elvis tous les jours. Il fait partie de ma famille.
Il y a un autre sosie d'Elvis juste à côté dans Beale Street. On va aller le voir. Bonjour.
Désolé, mais je chante dans 5 minutes. C'est un concert hommage à Elvis. Je viens d'Angleterre et rendre hommage à Elvis, c'est mon travail à plein temps. C'est une belle vie et c'est super d'être dans la ville d'Elvis. Ça fait à peu près 12 ans que je viens ici.
On va vous laisser chanter.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
Et pendant que Martin chante, Linda et ses amis se prennent en photo devant lui.
Oh my God, it's just amazing.
Oh mon Dieu, c'est juste incroyable. Il y a tous les styles ici. Je viens depuis 1982. Il y a beaucoup d'excitation dans l'air. Tout le monde est vraiment tellement amical. Et puis c'est une ambiance qu'on voit peu de nos jours.
Et Linda de conclure en buvant une gorgée de bière. Tout ça, c'est grâce à l'âme d'Elvis qui flotte au-dessus de Beale Street. Memphis, Philippe Rondé, France Inter.
Jailhouse Rock par Elvis Presley qui n'aurait eu cette année que 82 ans.